Chapitre 5. Dès qu'elle pensait à Maxime, Adessa aurait voulu pouvoir serrer la tête de ce maudit entre ses mains. Chef des Morassites, la guerrière faisait montre du type d'obstination réservée aux gens très patients ou totalement obsessionnels. Sans cesse, le visage de Maxime flottait devant son œil mental. Le nez étroit, les cheveux noirs, le bouc tout aussi sombre. La nuit, Adessa rêvait de saisir à pleine main ses cheveux épais empoissés de sang. Oui, elle voulait sonder le regard de Maxime à l'instant où la vie le quitterait. Alors que son corps s'écroulait, elle brûlait d'envie de rattraper au vol sa tête séparée du tronc. Ensuite, serrant son trophée, elle se voyait le brandir et accueillir comme une pluie bienfaisante les gouttes de sang qui tombaient du cou, puis sourire tandis que le rictus méprisant s'effaçait pour toujours des lèvres honnies. Adessa avait ordre de traquer et de tuer Maxime, ce traître à Ildakar. Le genre de mission qu'une Morassite remplissait toujours. Vêtue de sa tenue de cuir ordinaire, elle avait quitté sa ville adorée la nuit même des émeutes. Baissant les yeux sur ses bras nus, elle contempla les runes défensives qui couvraient sa peau. Chacune avait été gravée au fer rouge par son formateur, comme celle qui courait dans son dos et à l'intérieur de ses cuisses. Ces symboles lui avaient coûté un océan de souffrance et désormais il la protégeait contre la magie. Fermant les yeux, elle se souvint du grésillement qui montait de sa peau quand le formateur laissait le fer rouge dessus plus longtemps que nécessaire, tout ça pour lui arracher une grimace de douleur. Après avoir gagné ses premières runes, Adessa avait appris à ne plus lui donner cette satisfaction. Tout ça remontait à si longtemps. Quand on était assez forte pour endurer le processus, chaque brûlure vous rendait plus résistante. Parmi les Morassites, les aspirantes qui pleurnichaient ou tressaillaient simplement se retrouvaient dehors à la vitesse de l'éclair. Certaines étaient exécutées sans autre forme de procès, d'autres avaient l'honneur de mourir dans l'arène, et les plus malchanceuses, réduites en esclavage, devaient expier en public leur faiblesse. En règle générale, celles-ci se suicidaient dans le mois suivant leur déchéance. Après que Thora lui eut ordonné de pister et d'abattre Maxime, Adessa n'avait pas perdu de temps à faire ses bagages. Sans même récupérer des vivres, elle avait remonté les rues livrées au chaos, les incendies, les fauves en liberté, les esclaves célébrant leur victoire, puis quitté la ville sans la moindre hésitation. Si la Sovréna le lui avait demandé, Adessa serait restée à Ildakar pour combattre les rebelles. Dans ce cas, le sang des conjurés aurait coulé à flot, mais sa mission consistait à rapporter la tête de Maxime pour la jeter aux pieds de la Sovréna. Courant à la vitesse du vent, Adessa s'était enfoncée dans la nuit. Après une vie d'entraînement très dure et de combats plus durs encore, elle ne redoutait rien. Une épée courte sur le flanc gauche, elle portait un couteau de l'autre côté et sa main gauche était couverte d'un gantelet de fer hérissé de piques. Enfin, elle avait bien entendu sur elle sa pointe douleur, un artefact capable de faire mourir de souffrance un adversaire. Ça, c'étaient les armes visibles. La plus puissante, c'était Adessa elle-même. Surtout depuis qu'elle était nourrie par la magie de vie, la force prise à l'enfant à naître qu'elle avait dévoré dans sa matrice, s'appropriant ainsi l'existence qu'elle avait créée. Dès qu'ils seraient face à face, la Morassite se montrerait à la hauteur de Maxime, au minimum. Malgré l'obscurité, elle avait sans peine repéré les traces du fugitif. Depuis, elle avançait inlassablement en direction des collines du sud qu'il tentait de rallier. Le sorcier en chef était un type arrogant et paresseux qui paradait à cause de sa position dominante à Ildakar. Ses sens amplifiés par la magie de vie, Adessa n'avait eu aucun mal à repérer les brindilles cassées et autres indices du passage de sa proie. Même sans ça, elle aurait pu le suivre à l'odeur. Poudré et parfumé, Maxime empestait plus qu'une catin. En ville, les autres effluves couvraient les siens. Dans la nature, on les captait à des centaines de pas à la ronde. Un peu avant l'aube, sur le flanc d'une colline, Adessa repéra un cercle de terre nue. Après avoir arraché l'herbe, le sorcier avait tracé sur le sol une forme de sortilège très complexe. Étudiant les symboles, la Morassite ne parvint pas à leur donner un sens. En revanche, elle sentit dans sa chair qu'il s'agissait d'un sortilège puissant. Adessa s'agenouilla pour mieux voir. La terre, constata-t-elle, était imbibée de sang. En l'absence de carcasses d'animal dans les environs, une conclusion s'imposait. Maxime avait recouru à son propre fluide vital pour jeter le sort. Du sang de sorcier, un composant très puissant. Mais pour déchaîner quelle magie? Méfiante, Adessa regarda autour d'elle et tendit l'oreille en quête des sons familiers d'une nuit finissante. Maxime savait-il qu'elle le traquait? S'agissait-il d'un sort de camouflage destiné à l'égarer? Non, cette forme de sortilège était bien trop sophistiquée pour ça. De toute façon, elle se fichait comme d'une guigne de la magie du sorcier en chef. Sa seule préoccupation, c'était de mettre la main sur ce chien et de le tuer. Suivant les traces de sa proie, la Mauracide s'enfonça dans les collines qui surplombaient le fleuve Chasse-Corbeau. À l'évidence, Maxime se dirigeait vers les marécages qui s'étendaient en aval du cours d'eau. Un endroit où il croyait pouvoir se cacher? Eh bien, il se trompait lourdement. Par le passé, le Chasse-Corbeau était une des principales voies fluviales de l'Ancien Monde. Ville portuaire à l'origine, Île-Dakar accueillait le trafic venu des montagnes, une pépinière de communautés très actives, et celui qui provenait de l'estuaire du fleuve. Durant les Grandes Guerres, 3000 ans plus tôt, puis le conflit contre Kourgan, les sorciers avaient défendu la ville en remodelant son environnement. D'abord en surélevant une berge du fleuve, puis en créant les immenses marécages. En ces temps reculés, les membres du Douma n'avaient pas réfléchi outre mesure aux conséquences de leurs actes. Nombre de villages inondés avaient été rayés de la carte, mais Île-Dakar ne risquait plus rien. Avançant sur la crête des collines, Adessa marcha 2 jours durant en marquant de très courtes pauses. Pourtant, elle ne rattrapa pas sa proie. Désireux de laisser Île-Dakar très loin derrière lui, Maxime progressait lui aussi à un train d'enfer. Une fois dans les marécages, la Mauracide eut plus de difficultés à suivre la piste. Sur un terrain où alternaient des bandes de terre sèche et de vastes bourbiers, on se trouvait vite confronté à une multitude d'options différentes, avec très peu d'éléments pour se guider. Dans une mare de boue, Adessa repéra cependant une empreinte fraîche. De sa forme allongée, elle déduisit que Maxime avait failli glisser et se retrouver les 4 fers en l'air. Une idée réjouissante. Presque à chaque pas, le marécage devenait de plus en plus sinistre. Entre les branches, la Mauracide repéra des toiles assez grandes et épaisses pour piéger de gros insectes et même de petits oiseaux. Au milieu, attendant ses proies, une araignée au corps de la taille d'un poing pendait comme un fruit mûr empoisonné. Quand une de ces créatures se laissa tomber sur l'épaule nue d'Adessa, elle l'écrasa vivement, obtenant une immonde bouillie de fluide puant qu'elle fit promptement voler dans les airs. Comment Maxime, ce citadin délicat, réussirait-il à survivre dans cet enfer? Et s'il périssait, quelle injustice ce serait pour celle qui le traquait? La Mauracide continua, attentive à toute trace laissée par le sorcier. Une journée entière, elle perdit la piste, ce qui la força à revenir sur ses pas pour tout reprendre de zéro. Pataugeant dans la gadoue, elle inspecta la moindre racine et scruta la plus petite motte de terre. Après avoir écarté de hautes feuilles tranchantes comme des lames, elle s'enfonça dans des tunnels de végétation étouffants. En vain, Maxime s'était volatilisé. Peu à peu, la belle confiance d'Adessa s'effrita. Pourtant, elle ne pouvait pas échouer. Comment retourner auprès de la souveraina sans lui rapporter la tête de son mari? Pour une femme comme elle, ce serait une humiliation sans nom. Marquant une pause, la chasseresse mobilisa son intelligence. Allait-elle se laisser damer le pion par un pantin de cour, un bouffon poudré? Pas question. Les joues maculées de boue, ses cheveux courts mêlés à cause de la sueur, Adessa dégaina son couteau et se fraya un chemin dans une jungle gorgée d'humidité. Quand elle déboula dans une clairière au bout d'une petite éternité, elle vit du premier coup d'œil le dragon des marécages. L'énorme reptile au corps couvert d'écailles ouvrait en grand sa gueule assez grosse et puissante pour briser sans peine l'échine d'un homme. La tête levée, il fixait un point connu de lui seul un peu sur la gauche de la Mauracide. Le monstre ne ferait plus jamais de mal à personne. Mal inspiré, il avait dû s'attaquer à Maxime et finir foudroyé par son sort de pétrification. Adessa sourit. Enfin, elle était revenue sur la bonne piste. Bien sûr, le dragon lui rappelait qu'elle risquait de faire des mauvaises rencontres. Mais parmi les monstres qui écumaient le marécage, elle était de loin le plus dangereux. Elle se remit en chasse, certaine qu'elle toucherait bientôt au but.